Racontez le réel.
Racontez le réel.
Racontez le réel. Le podcast qui explore.
Le podcast qui explore les dessous du documentaire.
Le ciné-club de Racontez le réel. How to save a dead friend de Maroussia Sereyevchkovskaya. How to Save a Dead Friend de Maroussia Sereyevchkovskaya, c'est un récit autobiographique. Le jour de ses 16 ans, Maroussia s'est fait la promesse d'en finir avec la vie avant l'année écoulée. Mais au cœur de cette Russie de la déprime, elle fait la rencontre de Kimi, dont elle tombe éperdument amoureuse. Pendant 12 ans, elle va filmer leur couple, capturer l'euphorie et la dépression, la rage de vivre et le désespoir de leur jeunesse muselée par un régime violent et autocratique. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Ciné-Club de Raconter le Réel, en partenariat avec le cinéma Les 5 Comartins à Paris, du réseau Multiciné. Tous les mois, on vous propose un film documentaire en avant-première, ici au cinéma Les 5 Comartins, et pendant que le film est diffusé, on enregistre une interview avec mes invités. Aujourd'hui, je reçois Laurence Conant, chargée de développement en région, au sein de l'association Documentaire sur Grand Écran. Cette association œuvre pour la promotion du cinéma documentaire et la diffusion des films en France et organise chaque année dans toute la France le festival Best of Doc qui rassemble à chaque fois 10 des meilleurs films documentaires sortis au cinéma l'année passée, dont How to Save a Dead Friend pour cette édition 2024. Avec nous également Joël Chaperon, spécialiste des cinématographies d'Europe de l'Est, qui va nous parler du travail de la réalisatrice Maroussia Sereyevchkovskaya sur le film How to Save a Dead Friend et comment il s'inscrit dans une filmographie russe plus large. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Laurence Conant, commençons avec vous. Peut-être pouvez-vous nous présenter donc le festival Best of Doc pour commencer, qui a lieu chaque année en mars dans toute la France. Et c'est donc dans ce cadre-là qu'est diffusé How to Save a Dead Friend ce mois-ci.
Oui, alors ce festival est né d'un constat qui était que un grand festival de reprise, le festival Télérama, pour ne pas le nommer, ne sélectionnait quasiment pas de films documentaires. Voilà. Et comme notre ADN, nous, c'est défendre le cinéma documentaire, de lui donner toujours plus de visibilité, on s'est dit, créons un festival de reprise pour les films documentaires, avec cette même idée de sélectionner des films de sortie en salle l'année N-1 et de les proposer l'année N. Voilà. Donc on a un petit peu cherché la période, il y a eu le Covid, donc une année blanche, on a quand même essayé de faire comme quelque chose, on faisait des propositions et des débats en ligne, enfin, c'était assez compliqué. Et là on arrive à la 5e édition. On est passé d'une semaine à 15 jours, parce qu'on s'est rendu compte que pour certains cinémas, c'était difficile de programmer du cinéma documentaire à plus grande fréquence sur une semaine. Et donc la proposition, c'est que les salles de cinéma partout en France retiennent 3 films parmi une sélection donc de 10 films sélectionnés, de 3 films en avant-première, de 2 films inédits, d'un film de patrimoine et d'une sélection de courts-métrages. Voilà. Donc chaque année, il y a des nouvelles salles, il y a des salles qui reviennent. Ça monte un petit peu en puissance. On aimerait encore plus, mais on est quand même déjà assez content. Cette année, donc 200 séances seront organisées sur la période. Une quarantaine de séances sont accompagnées par les réalisateurs ou des spécialistes des films proposés, des critiques, des universitaires. Que dire encore ? On a réussi à faire des programmations plus fortes sur certaines régions. Donc on a constitué des programmes par région sur la Bretagne, la Corse, les Cévennes et environ, et Paris. Et il y a aussi un site, le site Best of Doc, qui permet aux spectateurs de retrouver les séances près de chez lui. C'est géolocalisé, donc voilà, on peut trouver les séances Best of Doc à proximité de son domicile.
Et vous avez donc, comme tous les ans, sélectionné 10 films documentaires sortis en salle l'année dernière. Pourquoi avoir sélectionné cette année How to Save a Dead Friend?
Alors, je peux vous raconter un petit peu notre découverte de How to Save a Dead Friend. En fait, c'est un film, j'ai retrouvé le flyer aussi avant de venir, qu'on avait sélectionné, choisi, pour fêter nos 30 ans, les 30 ans de l'association, lors d'une assemblée générale. C'était en juin 2022. Et voilà, on avait vraiment eu un coup de cœur quoi, pour ce film. Donc après, on a suivi son histoire. Et puis, il est sorti donc, en 2023. Et je crois que sur notre fonctionnement, en fait, c'est qu'il y a une équipe quotidienne qui travaille au sein de cette association. Et on fait une sélection d'une trentaine de films. Et cette trentaine de films, en fait, après, elle est revisitée par un comité de sélection qui comprend donc notre présidente Annick Pénigiuli, Antoine Guillot de Radio France, Chloé Vurpillot, de Tank, François Exagère de Télérama, Fabien David, qui est un exploitant de salle à Fort-Calquier, et Claire-Emmanuel Blot, qui est à la clé et également au Festival de Belfort. Et donc, dans la liste des 30 films, il y avait How to Save a Dead Friend, et de nouveau, il est arrivé en finale, en quelque sorte, quoi. Et on en est super content parce que c'est un film qu'on aime beaucoup. On aime beaucoup cette énergie qui passe dans ce film et comment, malgré une grande désespérance, il y a quelque chose d'extrêmement vivant qui nous est transmis.
Passons à vous, Joël Chaperon. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes spécialiste des cinémas d'Europe de l'Est, des cinématographies d'Europe de l'Est. Et vous avez notamment eu l'occasion de rencontrer Maroussia. Pouvez-vous peut-être tout d'abord nous expliquer peut-être la genèse du film, si vous la connaissez? Comment est né ce désir de film chez Maroussia?
En fait, les parents de Maroussia lui ont offert une caméra quand elle était toute jeune et elle s'est dit que de toute façon, il fallait qu'elle filme ce qu'elle voyait, ce qu'il y avait autour d'elle. Elle n'a jamais pensé, pendant toutes les images en fait, qui défilent à l'écran de ce film-ci et qui partent de sa rencontre quasiment avec le personnage masculin principal qui s'appelle Kimi, elle n'a jamais pensé à en faire un film. Elle enregistrait des moments qu'ils vivaient ensemble, des moments de sa vie, des moments de leur vie, des moments avec ses parents. Et jamais elle ne lui est venue à l'esprit d'en faire un film. Et c'est à partir de, notamment du décès du personnage masculin principal, Kimi, que pendant quelques années, puisque son décès a eu lieu en 2016 et le film a été montré pour la première fois en 2022, pendant quelques années, elle s'est demandé comment, en fait, arriver à faire revivre Kimi, qui lui manquait beaucoup. Et elle a repris toutes ces images et elle s'est attelée à un travail pendant le Covid, ce qui était compliqué, avec un chef monteur particulièrement talentueux, puisque c'est le monteur notamment des Filles d'Olpha, de Kaoter Benatia, le film français qui est sorti l'année dernière et qui était à Cannes. Et même s'ils ont eu des difficultés techniques parce que c'était pendant le Covid et qu'ils ont été obligés de travailler par Skype quasiment tout le temps, ils ont partagé tous les moments du montage pour arriver à en faire un film avec des vraies décisions cinématographiques, celle par exemple de mettre des images de l'enterrement dès le début de manière à marquer et ne pas arriver à l'enterrement à la fin et à la mort de Kimi comme une sorte de surprise qui serait pour le spectateur. Non, le décor est planté d'emblée et ensuite on va revenir sur la genèse de leur histoire. Et toutes ces décisions-là, ces décisions qu'ils ont prises à deux, Maroussia elle-même dit que son chef monteur absolument formidable avec lequel n'a qu'une envie, c'est de retravailler, et surtout formidable parce qu'il n'impose rien et qu'il arrive à chaque fois sur quelques films qu'il travaille à mettre en avant la volonté du metteur en scène lui-même et pas la sienne propre. Et donc cette genèse-là, ce film vient de cette genèse-là, à la fois d'images tournées pendant des années qui ne servaient quasiment à rien si ce n'est à entretenir la mémoire pour arriver à en faire quelque chose qui de toute façon va même dépasser leur histoire, parce que c'est aussi, et c'est ça qui est formidable, c'est aussi un portrait de cette jeunesse sous Poutine pendant les années notamment 2000 et 2010 qui sont les années les plus terribles, et c'est surtout cette jeunesse non pas dorée mais au contraire cette jeunesse laissée pour compte. Et en marge de cette histoire personnelle, c'est devenu un film sur la Russie d'aujourd'hui.
Et effectivement, on ressent fortement donc une jeunesse qui souhaite se défaire de son passé soviétique, aux élans punk, qui souhaite s'occidentaliser. Est-ce que c'est un thème récurrent dans les cinémas d'Europe de l'Est et notamment en russe, cette thématique de la jeunesse? Parce qu'on a vu par exemple un autre film dans le cadre de Best of Doc qui s'appelle Queendom. Et là aussi, c'est une personne, on suit une personne qui a 25 ans, je crois, de mémoire, je dirais, même plus jeune.
Oui, oui, donc ce que je peux dire, effectivement, c'est de façon étonnante, on a ouvert le festival Best of Doc avec un film inédit, Queendom, qui retrace aussi plusieurs années de vie d'une personne queer en Russie. Et de toute la difficulté en fait de vivre en Russie et de s'opposer aussi au pouvoir, puisqu'il y a dans les deux films il y a des moments de manifestation avec une répression extrêmement violente et voilà l'absence de liberté d'expression en Russie aujourd'hui qui apparaît dans les deux films. Et c'est vrai que le rapprochement est assez frappant et les jeunes réalisateurs russes donc sont happés par la vie là-bas et cette difficulté d'exprimer son mécontentement, sa révolte aujourd'hui en Russie. Ouais.
Joël.
Et pour ce qui concerne la musique occidentale, parce qu'effectivement elle est très présente, mais c'est aussi une musique punk, grunge, avec Nirvana, avec Ian Curtis, avec Kurt Cobain, c'est qui en anglais chantent le désespoir et la drogue, puisque c'est quand même le thème aussi malheureusement principal de ce film-là. C'est quelque chose qui est apparu au moment de la perestroïka. Il faut se souvenir bien évidemment que du temps de l'Union soviétique, ce type de musique, ce type de film, ce type de personnage était absolument interdit d'expression. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de gens qui se droguaient, mais bien évidemment il n'y a aucune trace cinématographique de ces gens-là du temps de l'Union soviétique. En revanche, depuis la chute du mur et depuis le délabrement de l'Union soviétique, il y a un certain nombre, notamment de jeunes, qui sont à la fois ont été laissés pour compte par la société, qui sont tombés dans l'alcoolisme, qui sont tombés dans la drogue, qui ne voyaient absolument aucun futur. C'est vraiment le no future permanent. Au début du film de How to Save a Dead Friend, de toute façon, elle commence par Marussia Serajkovskaya, la réalisatrice, commence par dire que de toute façon, elle avait décidé de mourir à 16 ans parce qu'il n'y avait pas d'avenir possible. Et c'est effectivement un thème récurrent. C'est un thème qu'on voit dans le cinéma documentaire contemporain, qu'on peut voir aussi dans le cinéma de ces années de 1990 un peu et les années 2000 dans le cinéma de fiction. Et qu'on ne voit plus aujourd'hui parce que avec la dictature de Vladimir Poutine, aujourd'hui, il n'est plus question de mettre ça en avant et de montrer des gens qui ne vont pas bien. Le but de Vladimir Poutine, c'est de montrer justement que la Russie va bien.
On écoute un extrait de cette musique aux accents punk et grunge. Cette musique, effectivement, montre ce regard tourné vers l'Occident en donnant aussi le ton du documentaire, joyeux et fougueux au début et plus triste et résigné à la fin.
Oui, parce que, encore une fois, cette musique a accompagné le montage du film et bien qu'on sache comment l'histoire se termine, par définition, Marussia voulait absolument que le film commence par le côté joyeux, le côté de la rencontre, le côté de l'amour qui émerge, leur mariage et plus il va s'enfoncer dans la drogue et qu'elle même va essayer d'en réchapper, plus la musique va accompagner la distance qui va se creuser entre eux et notamment la difficulté qu'elle va avoir d'essayer de lui sortir la tête de l'eau, de garder sa tête hors de l'eau à lui, alors même que, comme elle le dit à un moment, la drogue était devenue prioritaire et qu'elle a compris à un moment qu'il préférait la drogue à elle qui a été un choc pour elle. Et tout ça est accompagné par cette musique-là. Et il y a quelques groupes russes qui faisaient ce type de musique, mais soyons honnêtes, tout le monde était tourné vers la musique occidentale, comme si effectivement les chanteurs comme Kurt Cobain arrivaient à mieux faire passer le message qu'eux-mêmes ressentaient.
Vous l'avez dit aussi tout à l'heure, c'est très politique finalement comme film sur l'état de la Russie envers ceux qui la gouvernent. Toujours la même personne d'ailleurs au passage aujourd'hui. Comment le film a été reçu en Russie et finalement, Marussia habite toujours en Russie aujourd'hui. Est-ce qu'elle n'a pas jamais encouru de risque de faire ce film ?
Alors le film n'est jamais sorti en Russie, il fait partie de cette longue liste de films qui aujourd'hui ne sortent plus en Russie. Je pense de toute façon que même au moment où elle était en train de le terminer, elle devait bien se dire qu'il ne sortirait pas. Et le film n'a pas été fait avec de l'argent russe, le film a été fait avec un ensemble de fondations diverses et variées, de coproducteurs divers et variés de toute l'Europe. Il y a des Norvégiens, il y a des Français, il y a des Allemands qui ont mis la main au portefeuille pour que ce film puisse voir le jour. Pour ce qui concerne sa vie à elle aujourd'hui, elle est visiblement de manière temporaire en Russie et essaie, je présume, de ne pas faire de vagues pour continuer de pouvoir y travailler, en tout cas à un certain moment. Elle travaille sur un prochain film dont on ne sait pas quand il verra le jour, lui non plus, mais en tout cas elle est là-bas pour travailler à ce film-là.
Et qui se passe aussi en Russie, le prochain film ?
Visiblement. Je pense qu'elle n'a pas spécifiquement envie, justement, de dire quoi que ce soit pour ne pas se retrouver en butte à la vindicte de la bureaucratie poutinienne.
Revenons un peu plus sur les dessous de la création du film. Il y avait une matière cinématographique énorme. Elle a filmé pendant plus de 10 ans, 15 ans, je crois, de mémoire. Comment monte-t-on un film avec autant de rush ? Est-ce que vous savez peut-être le nombre d'heures de rush qu'il y avait ou pas du tout ?
Non, je ne sais pas combien il y avait d'heures de rush. Toujours est-il qu'ils ont passé quasiment, je crois, un mois ou un mois et demi à tout visionner. À raison de, je ne sais pas, 7 ou 8 heures par jour. Et quand je dis « ils » au pluriel, c'est vraiment eux deux à distance, visionnant ensemble les scènes. Chacun prenant des notes de son côté pour voir justement l'agencement de toutes ces images-là, et comment elles allaient s'imbriquer les unes dans les autres et laisser bien évidemment des heures entières de côté pour que quand même ça fasse une vie commune de ces deux personnages et au-delà, puisque même après leur séparation, elle continuera de le filmer.
Laurence ?
Je voulais juste faire remarquer que ce monteur de très grand talent, qui est aussi réalisateur, c'est Kuteiba Barmadji. Il a monté aussi le film Little Palestine, qu'on a aussi proposé monter. Et en fait, il se coltine, entre guillemets, souvent à une matière comme ça énorme, qui est difficile à reprendre, à reconstruire. Enfin, voilà, il est. Je ne peux pas dire qu'il se spécialise là-dedans, mais il a quand même souvent affaire à ça. Et ce que je ne sais pas, peut-être que vous savez, c'est comment elle a construit sa voix off, parce que je trouve que la façon dont elle raconte les choses qu'elle apporte par ce récit crée une distance avec les images, puisqu'elle raconte après. Et ça nous permet aussi à nous d'accepter plus, enfin peut-être pas d'accepter, c'est pas le bon mot, mais de recevoir ces images de façon un peu apaisée quand même, parce qu'il y a beaucoup de violence dans ce qui est dit, dans ce qui est raconté, dans ce qui est vécu, leur séparation, enfin la violence de l'addiction à la drogue. Et en fait, il y a une grande douceur qui arrive par cette voix. Et voilà, je me demandais un peu à quel moment elle avait choisi de l'écrire, ou si même peut-être elle l'a écrit avant pour construire peut-être les images, je sais pas.
Alors, je n'ai pas réponse à cette question, je ne sais pas quand elle a écrit son texte, mais en tout cas, c'est clair et vous avez raison sur la distance que donne le ton de sa voix par rapport aux images qui défilent et qui sont parfois extrêmement difficiles, voire violentes. Et ça me fait penser à un autre documentaire, celui qui a eu l'Oscar du meilleur documentaire il y a 3 jours, qui s'appelle « 20 Days in Mariupol », là aussi, sur des images absolument atroces, Mikhail Tchernov a mis sa voix off avec un ton très calme, comme si ça venait en contrepoint justement des images particulièrement violentes qu'il montre de Mariupol. Donc je ne sais pas quand elle a écrit son texte, mais en tout cas, je suis absolument persuadé que elle s'est bien évidemment voulu que sa voix vienne apaiser en fait la violence du propos.
On a en fait cet aspect tout au long du film de journal intime finalement, qui je pense participe au fait qu'on est tenu par tout le film parce qu'on a l'impression d'être dans leur intimité. C'est pas qu'une impression d'ailleurs, on est dans leur intimité. Et il y a aussi le thème de, on les voit grandir, de l'adolescence, et finalement qui est un thème universel où aussi on peut tous se reconnaître.
Oui, on peut tous se reconnaître et j'imagine qu'il y a des destins tout à fait similaires, y compris dans nos pays à nous, de gens qui justement ne pensent qu'à se suicider et qui plongent dans la drogue ou dans l'alcool. Il se trouve que là en plus, elle a cette faculté d'avoir fait un film aussi qui montre à quel point la politique du pays a pu jouer sur leur personne, sur leur personnalité, sur leur tempérament. Et qu'elle n'a fait cette politique du pays que les déprimer un peu plus chaque fois. Et la litanie des vœux qu'on voit au fur et à mesure de Poutine et de Medvedev au fur et à mesure qu'on avance dans le temps ne vient faire que souligner justement ce no future et cette impossibilité de se sortir de la politique qui est imposée par le Kremlin. Et sans doute que ce film-là est beaucoup plus politique qu'un film analogue qui montrerait des gens qui se droguent de la même manière en France. Je pense qu'il n'aurait pas cette force politique que le film de Marussia Serajitchkovskaya.
Laurence ?
Moi, je trouve qu'il y a quand même une petite note d'espoir, en fait, de force de vie dans le film, par sa forme, par son montage, justement, par la musique, mais aussi parce qu'elle en dit. C'est-à-dire qu'elle dit, et on le voit, que Kimi l'a sauvée. Ils se sont sauvés mutuellement à un moment. Et en faisant ce film, elle le sauve de la mort, elle le sauve de l'oubli. Et je trouve que les images de la fin du film, qui sont ces espèces de flous artistiques sur les immeubles, c'est une espèce de constat que, bon, on vit là, c'est notre lieu de vie. C'est un peu, on n'y peut rien, mais on arrive quand même à trouver la force de vivre là, quoi. Et bon, je ne vais pas dire que c'est un film optimiste et qui constaterait une joie de vivre extraordinaire en Russie. Mais je veux dire, il y a une espèce de résistance de la vie, quoi. De résistance parce qu'il y a des moments aussi où on vit ensemble. Il y a des formes, enfin, il y a ce groupe, il n'y a pas que le couple, il y a aussi le groupe quand ils. Et le fait de quand même des moments où ils ont fait la fête, où ils sont allés dans des concerts, etc., qui fait passer des moments aussi de joie et de bonheur, quoi, d'énergie, de force de vie, qui déborde en fait à un moment le désespoir qui le déborde et qui permet de tenir, quoi.
Et puis, il y a aussi le côté du fait qu'elle ait filmé tout ça et que lui ne soit plus de ce monde aujourd'hui. Ça lui permet à elle de le faire revivre lui et de le garder, en fait, puisque, comme elle le dit, de toute façon, maintenant, tu ne vas plus exister que pixelisé, puisqu'il n'y a plus que l'image numérique qui va rester de lui, puisqu'il n'est plus là. Et il y avait dans une des critiques du film qu'a écrite Jean-Michel Fredon, une citation de Jean-Michel Fredon, Jean-Michel Fredon citait Jean-Luc Godard, qui disait « Le cinéma n'est pas à l'abri du temps, le cinéma est l'abri du temps. » Et en fait, en filmant Kimi, elle l'a mis à l'abri du temps.
Laurence ?
Enfin, moi, je trouve que là, on est un peu dans un film phare de ce qu'a peut apporter vraiment le cinéma documentaire. Parce que je vois pas comment une fiction pourrait faire passer quelque chose d'aussi fort, en fait. C'est ça, en fait, moi, je crois qu'il me plaît énormément dans le cinéma documentaire, c'est que, en saisissant la vie quotidienne, hein, aussi, finalement, la vie des gens, là où ils sont, dans beaucoup, des fois, de tristesse et de misère, etc., d'abord, nous, on s'en rapproche, on peut arriver quand même à saisir ce qui peut se passer, alors que jamais on le saisira avec des informations ou avec quelque chose de très court, en fait. Et c'est la durée d'un film comme ça qui nous permet de plonger dans leur univers et dans la vie de la jeunesse de la Russie aujourd'hui, quoi. Et je vois pas comment on pourrait trouver un équivalent en fiction et quelque chose qui serait peut-être faux, enfin, je sais pas.
C'est très bien dit, effectivement.
Mais je parlais tout à l'heure de 20 Days in Mariupol. En fait, il y a un truc analogue aussi qu'on retrouve dans les deux films, c'est que ni Tchernov ni Serajitchkovskaya, au moment où ils faisaient leurs images, ne se disaient que ça allait faire un film. l'une, d'un côté, filmait sa vie quotidienne et puis un jour, elle a décidé d'en faire un film. L'autre était reporter de guerre, envoyait ses images à Associated Press qui ont fait le tour du monde sur la maternité bombardée, etc. Et puis un jour, en voyant ses propres images reprises par des télévisions du monde entier, il s'est dit « mais en fait, c'est pas ça moi que je voulais montrer en filmant les images » et il s'est réapproprié ses propres images pour en faire son propre film. Et il y a quelque chose de commun dans cette démarche-là entre les deux films, c'est que les images qui sont à l'écran n'ont pas été des images filmées pour faire un film, ni dans un cas, ni dans l'autre, et que les deux sont devenus un film. Et là où je vous rejoins, où c'est qu'effectivement, sans doute que le cinéma de fiction peut difficilement faire ça.
Finalement, dans la démarche, c'est presque un documentaire d'archives, mais contemporaine.
Oui, exactement. Oui, tout à fait.
Pour conclure, une dernière question. Depuis la guerre en Russie, on imagine aussi que c'est difficile pour tous ces réalisateurs de continuer à filmer et à sortir des films. Que voient les Russes aujourd'hui en termes de cinéma ?
Alors, dans les salles de cinéma aujourd'hui en Russie, les Russes continuent de voir beaucoup de films russes, de fiction. De toute façon, le cinéma documentaire n'a jamais véritablement eu droit de citer dans les salles de cinéma en Russie. Ça n'empêche pas les gens de faire du cinéma documentaire, mais il n'est pas visible dans les salles de cinéma en Russie. Il n'est pas forcément beaucoup en France, mais en tout cas, rapporté à la Russie, il l'est énormément en France. Et donc, il voit des films de fiction qui, depuis la guerre, sont des films dont il y a des thématiques prioritaires à partir desquelles l'État va vous financer votre film. Si vous vous adressez, si vous vous attelez à une des thématiques prioritaires, elles sont au nombre d'une trentaine aujourd'hui. Qui vont de le côté valeureux des pompiers en passant par comment est-ce qu'il faut combattre les nazis en Ukraine, et la palette est très très large, mais vous avez quand même encore aujourd'hui le droit de faire des films qui ne relèvent pas de ces thématiques prioritaires. Le problème de ces autres films, c'est qu'ils ne doivent pas non plus contrevenir à ce que la censure ne veut pas voir, et donc vous vous retrouvez avec des films un peu à l'eau de rose, avec des comédies familiales qui fonctionnent du feu de Dieu. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que les majors américaines, n'ayant plus le droit de citer parce qu'elles ont décidé de boycotter le marché russe, ce n'est pas la Russie qui boycotte les majors américaines, c'est les majors américaines qui boycottent la Russie. Depuis que les blockbusters américains qui font les beaux jours du cinéma mondial ou des salles de cinéma dans le monde ne sont plus là, le cinéma russe, bien évidemment, a pris la place du cinéma américain. Puisque en 2023, 70% des spectateurs sont allés voir des films russes en Russie, ce qui fait de la Russie le premier pays européen avec une part de marché national aussi haute, devançant même la Turquie. Et par parenthèse, ce qui est assez drôle, c'est que la deuxième cinématographie la plus vue dans le pays après le cinéma russe, c'est le cinéma français, puisqu'on a 62 films qui sont sortis l'année dernière et qui en tout ont fait 7 200 000 spectateurs. D'une manière générale, la Russie et l'Union soviétique ont toujours essayé de contrôler l'image que leurs films renvoyaient, sauf pendant les années 90 où il y a eu des films sur les gangsters, des films sur la mafia russe, des films sur la déprime, des films sur la drogue, etc. Dans cette petite dizaine d'années qui a séparé la chute du mur de l'arrivée de Vladimir Poutine, il y a eu des films comme ça, mais aujourd'hui il n'y en a plus et ce type de film n'existe plus aujourd'hui sur les écrans russes.
Merci Joël et Laurence.
Merci beaucoup.
Merci Clément.
Je crois que le film se termine bientôt, donc on va rejoindre le public et recueillir leurs réactions et leurs questions. En attendant, j'en profite pour rappeler que le festival Best of Doc a lieu dans toute la France jusqu'au 19 mars et revient l'année prochaine avec 10 nouveaux films. How to Save a Dead Friend est déjà sorti au cinéma l'année dernière et est distribué par la 25e heure.
C'est peut-être de la curiosité mal placée, mais est-ce que vous savez de quoi Marussia a vécu avant son documentaire,
Elle a fait des études. Elle a fait des études de cinéma d'abord. Elle a fini une école de cinéma chez Marina Razbieshkina, qui est une très grande documentariste, j'allais dire assez suffisamment âgée. pour avoir commencé sa carrière de documentariste du temps de l'Union soviétique et qui est considéré comme effectivement le phare du documentaire en ex-URSS et en Russie aujourd'hui, qui a eu les pires problèmes depuis avec le pouvoir poutinien sur la fermeture de son la fermeture éventuelle de son école, et ça n'a pas été facile. Donc elle a fait d'abord cette école-là assez rapidement après son bac, et puis ensuite elle a fait une école d'art appliqué, et après elle a fait un certain nombre de courts-métrages depuis 2014-2015 où elle est globalement derrière la caméra. C'est son premier long-métrage.
Enfin, parce que vous disiez qu'elle venait du quartier pauvre, mais moi du coup j'avais que comprendre qu'elle venait d'un quartier plus riche, parce qu'en plus elle parle du fait qu'elle est dans une grande maison et que ses parents étaient très aisés. Enfin, du coup, moi, j'avais compris qu'elle était plus d'une classe sociale.
L'implantation de ces HLM, c'est effectivement ce quartier-là. Elle, visiblement, après le divorce de ses parents, ça a changé considérablement son mode de vie. Elle a commencé, dans mon souvenir, effectivement, en habitant à peu près dans de bonnes conditions financières, mais le divorce de ses parents a plongé dans ce quartier-là.
Ok, non, parce que justement, je me demandais du coup ce que ses parents faisaient dans la vie pour être...
C'est pas forcément des parents riches, mais peut-être à un moment, notamment, elle est née en 89, elle avait 10 ans, 12 ans quand Poutine est arrivé au pouvoir. Les années 90 ont été terribles financièrement pour le pays. Ça a été un drame absolu, économiquement parlant, politiquement un peu moins, mais économiquement oui. Et puis après, ça s'est renversé. Économiquement, ça allait mieux et politiquement, c'était pire. Et donc, les années 2000, qui sont son adolescence à elle, après le divorce de ses parents, sont des années où, en revanche, ses parents avaient sans doute un métier, je ne sais plus lequel, et ce n'est pas dit, qui leur permettait d'avoir un niveau de vie décent et de ne pas être dans la lie de la société comme ont pu l'être pas mal de gens qui ont été laissés pour compte au moment de la perestroïka.
Je me posais une question parce qu'on parlait de musique tout à l'heure. Et alors, effectivement, il y a toute la dimension... Enfin, le début avec le groupe dans lequel elle fait partie, tout ça, Joy Division, tout ça. Mais il y a un moment où il y a de l'ambiance et ça prend une grande place. Enfin, même à la fin, ça termine avec pas de l'ambiance. Et je me demandais si elle avait un rapport particulier avec la musique parce qu'elle semble composer des choses au moment où, par exemple, elle...
C'est aussi une bonne question, mais je n'ai pas la réponse.
C'est pas grave.
J'ai pas la réponse, je sais pas du tout si elle fait de la musique ou elle en est aujourd'hui en tout cas.
Ok, d'accord, merci.